au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Mais non, ce n'est pas Hélène aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que c'est moi, c'est Denis Martin Chabot qui est là. Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour, parce que c'est quatre fois mieux qu'une seule fois. Je sais pas vous dire, c'est le 6 octobre aujourd'hui, mais avec la météo, on penserait peut-être au plus au 6 juillet. Et comme je suis l'animateur de l'été ici, je pense que ceci explique cela. Je reviens en onde et il fait chaud. Bon, ouais, je vais arrêter de vanter, mais c'est ça. Il va faire beau en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. Températures qui pourraient être, qui vont être très élevées. On va atteindre, on va même dépasser les 25 degrés. C'est plus frais dans l'ouest du pays. Et le nord de l'Ontario, avec des températures autour de 11 à 15 degrés. Précipitations, notamment Edmonton, Winnipeg et Thunder Bay. Et puis, c'est le soleil dominant aussi sur la côte ouest, particulièrement donc dans la région de Vancouver. Et aujourd'hui, donc, à l'émission, nous avons une émission très, très intéressante. Nous allons recevoir Camille Paré-Poirier qui va nous parler de la pièce de théâtre qui s'appelle... Ah, c'est fou, le titre vient de me... Voilà, je l'ai ici. Le titre vient de Dedans dehors, parce que je n'avais pas écrit au bon endroit. Dedans dehors, qui est présenté au Centre du théâtre d'aujourd'hui. On va aussi parler de la semaine des traumatismes crâno-cérébraux, les traumatismes crâniens, et avec Marjolaine Tapin, directrice donc générale de Connexion TCC-QC, TCC Québec. Et on reçoit aussi nos habitués de... du lundi, Louis de Bernis et Daniel Rioux. Daniel Rioux est au téléphone. Allô, Daniel.
Bonjour, Denis Martin.
On parle de quoi aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, je parle d'animaux. On voit beaucoup de gens se promener avec des chiens, hein? Et puis, on voit aussi qu'il y a des gens qui cherchent leur chat, entre autres. Donc, les animaux sont très présents dans la vie des gens. Et ici, dans le journal La Presse, on l'a abordé du côté des femmes qui préfèrent avoir un chien que d'avoir des enfants, et pour diverses raisons, c'est quand même pas inintéressant. Et j'ai aussi, par hasard, coïncidence, dans Psychologie de août 24 2024, on y traite justement de l'animal, le chien entre autres, quand l'animal remplace l'enfant. Il y a un autre angle qu'on y donne, on va compléter avec tout ça, mais c'est assez intéressant à voir et à découvrir.
En tant que propriétaire de chien, moi je peux vous dire que mon chien, ce n'est pas mon enfant, c'est mon chien. Je ne suis pas son papa, je suis son maître, parce qu'il faut mettre des structures, mais ça on pourra en reparler. Louis de Bernis.
Bonjour, Denis Martin.
Oui, alors on parle de la police qui annonce qu'un enfant, leur enfant, est mort.
Oui, il est adulte, mais oui. Une mésaventure arrivée à un Britannique déclaré mort à ses parents. Ses parents ont dû avoir une belle peur. Il y a derrière tout ça l'histoire de l'usurpation d'identité, un fléau de nos jours. On pourra en parler. Et puis une autre mésaventure aussi en Angleterre. Là, c'est bien de sa faute. Un homme a passé une bonne semaine à l'hôpital après avoir ingéré 3 kilos de bonbons en 3 jours. Voilà, faites attention à vos estomacs.
Aïe, 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 ils ont des chaperons. Okay, oui. c'est l'éphéméride d'aujourd'hui. On va parler de cinéma beaucoup aujourd'hui. En 1927, aux États-Unis, le premier film parlant, le chanteur de jazz, est projeté à New York. Ça marque tout un changement dans le cinéma, l'industrie du cinéma. Et au Moyen-Orient, en 1973, c'est la guerre de Kippour, conflit entre Israël et une coalition de pays, notamment l'Égypte et la Syrie. Puis on voit que c'est une guerre qui a eu des répercussions, puis je pense qu'on la voit encore de nos jours. Puis oui, justement, toujours dans le même coin, hein, 1981, en Égypte, l'assassinat du président Anwar el-Sadat lors d'une parade militaire au Caire par des extrémistes islamistes opposés à son traité de paix avec Israël. Eh mon Dieu, l'histoire se répète, ça continue. Justement, parlant de cinéma, hier, c'était en 1962 au Royaume-Uni, la sortie du tout premier film de la saga James Bond, Dr. No. On pourrait dire que c'est une des franchises cinématographiques les plus célèbres au monde. Et puis, décès en 2011 aux États-Unis, hier, donc, de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, pionnier de l'industrie informatique. Hein, on parlera de des produits comme le iPhone, le Mac, et c'est immense tout ça. Et toujours dans le cinéma, je reviens là, 1960, sortie du film Le Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick, film épique sur la révolte d'un esclave romain qui devient un classique du cinéma. J'avais vu ça, Daniel ou Louis, Spartacus? Ben, Louis, il est trop jeune.
Oh, Spartacus, non, peut-être plus Ben-Hur, mais pas Spartacus.
Bon, ben, moi je l'ai vu. J'ai pas vu, j'étais pas au monde quand ça a sorti le chanteur de jazz, mais je suis au courant de ça. Mais bon, voilà. Et James Bond, je suis pas un fan, alors on va arrêter ça là. 1995, toujours, hein, tiens, sorti du film Seven, réalisé par David Fincher, qui devient rapidement un classique du thriller psychologique très noir, qu'on dit, avec des performances mémorables de Brad Pitt et Morgan Freeman. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'habitat. Hein, quand on est dans cette pleine crise du logement, pas de mauvaise idée. Puis on va souhaiter une bonne fête nationale à toutes les personnes laotiennes parce que c'est leur journée nationale aujourd'hui. On va en musique.
Réveille-moi quand tu seras prête. Ensemble, on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi. Ça fait des mois que je cherche et je ne trouve pas des filles comme toi, je te jure, j'y croyais pas. Jusqu'à ce jour, c'est quand j'ai arrêté de chercher et que je pensais avoir fait le tour, que tu es apparu comme ça et je suis tombé en amour. Non, je vois l'avenir quand je regarde dans tes yeux. Est-ce que l'on deviendra un jour ces gens heureux? J'aurais tout donné pour te trouver un peu plus tôt dans ma vie. J'en ai assez de me réveiller si c'est pas toi dans mon lit. Appelle-moi quand tu seras prête. Ensemble on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Je veux que tu me rejoignes sous les sunsets. Qu'on vive le rêve, qu'on se fout du reste. Je te jure, si le monde explose, on s'en fera pas. Parce qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Ça fait des mois que t'embellis mes soirées. Car on frette sur le bord du quai. En parlant de nos futurs bébés, ça va vite vite, mais je m'en fous. Je me fous même ce que le monde pense autour. À quoi ça sert de se retenir s'il y a de l'amour entre nous? Maintenant je vois l'avenir quand je regarde dans tes yeux. Est-ce que l'on deviendra un jour ces gens heureux? J'aurais tout donné pour te trouver un peu plus tôt dans ma vie. J'en ai assez de me réveiller si c'est pas toi dans mon lit. Appelle-moi quand tu seras prête. Ensemble on partira vers l'ouest. Si le monde explose, on s'en fera pas. Tant qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Je veux que tu me rejoignes sous les sunsets. Qu'on vive le rêve, qu'on se fout du reste. Je te jure, si le monde explose, on s'en fera pas. Parce qu'on est toi et moi, toi et moi, toi et moi. Et s'il y a un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux. Et s'il y a un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux. Et s'il y a un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux. Et s'il y a un jour où tout est sombre et qu'il pleut, je te promets que ce jour, nous resterons courageux.
Tant qu'on est toi et moi, une chanson de Gabriel Fréchette.
Allons-y maintenant pour un petit tour des actualités. Dans Le Devoir ce matin, des délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis entament aujourd'hui, donc en Égypte, des négociations indirectes cruciales. L'objectif est double, obtenir la libération des otages retenus à Gaza et mettre fin à près de 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. Ces pourparlers se déroulent à Sharm el-Sheikh à la veille du deuxième anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste contre Israël survenue le 7 octobre 2023. Le président états-unien Donald Trump a exercé de fortes pressions sur les négociateurs. Après avoir présenté un plan de paix la semaine dernière, il a appelé les parties à avancer très rapidement, évoquant des premières discussions très positives avec le Hamas en amont de cette réunion. Le plan états-unien à la base des discussions prévoit un cessez-le-feu, la libération rapide des 47 otages encore retenus et le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza. Trump a prévenu le Hamas qu'il ne tolérerait aucun retard dans l'application de la première phase, celle de la libération d'otages. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé l'envoi de ses négociateurs. De son côté, le Hamas a confirmé être désireux de mettre fin à la guerre, exige la suspension de toute opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Les réunions d'aujourd'hui marquent une reprise cruciale des pourparlers après des mois d'efforts infructueux. Dans Le Devoir encore, le coup de tonnerre à Paris, la France s'enfonce dans une crise politique sans précédent, quelques heures à peine après la formation du nouveau gouvernement du premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission au président Emmanuel Macron, qui l'a accepté. C'est le gouvernement le plus bref de l'histoire de la Ve République. Fragilisé par les critiques et la fronde des Républicains menée par Bruno Retailleau, Lecornu a déploré les appétits partisans qui ont mené à sa chute. Cette instabilité immédiate a provoqué la chute de près de 2 % de la Bourse de Paris ce matin. Face à ce chaos, le Rassemblement national et la France insoumise appellent le président Macron à la dissolution de l'Assemblée nationale ou même à sa démission. La France est désormais plongée dans une impasse politique majeure. Selon Radio-Canada, l'itinérance s'aggrave et la crise de santé mentale en est la cause majeure. Selon l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec, 574 personnes évaluées sont actuellement en attente d'une place d'hébergement en santé mentale. C'est la pointe de l'iceberg. À Montréal, seulement 271 personnes cherchent une ressource intermédiaire cruciale. Le problème s'accentue avec l'explosion des coûts de la construction qui freine l'ajout de nouvelles places. Conséquence directe, environ 150 personnes occupent un lit d'hôpital en attendant un lieu de vie plus adapté. La pression monte pour trouver des solutions. La Presse Plus, la nouvelle mouture de la garantie de disponibilité est entrée en vigueur hier au Québec, s'inscrivant dans la lutte contre l'obsolescence programmée. Cette loi, adoptée en octobre 2023, vise à permettre aux consommateurs de faire réparer leurs appareils. Elle oblige désormais détaillants et fabricants à fournir des informations claires sur la disponibilité des pièces et la réparation des produits avant l'achat. Pourtant, une vérification a constaté que de nombreux détaillants ne sont pas prêts. Des employés de grandes enseignes ignoraient même l'existence de cette nouvelle obligation. Malgré les plaintes des associations de commerçants qui dénoncent un fardeau administratif, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, se dit convaincu de la pertinence de la mesure pour le consommateur. L'Office de la protection du consommateur compte accompagner les entreprises vers la conformité sans privilégier la sanction immédiate.
On se réveille tous les jours, next to one another, it's cool, la vie est courte, mais prends ton souffle, on est chanceux d'être si heureux, juste toi et moi, tous les deux, on boucle des shows, we're on the road, let's go. We're singing all the time, we just need a little water, nana. On se voit sourire dans le miroir, toutes les choses qu'on s'est faites à croire. D'un fond, faut juste savoir, we're lucky to be here now.
Traverser le monde, mais prends le temps.
et j'aille sa chanson une seconde.
Bon, ben Daniel, on va parler de Gustave, mon chien. Non, on va parler de chien en général.
ben, pour les amoureux des animaux, pourquoi pas? Ben, vous avez Gustave, moi j'ai Snow, j'ai eu d'autres chiens.
Ah oui, ben moi j'ai un terrier, hein, Yorkshire, et ils ont du caractère.
Oh, que oui, ça, je le sais, j'en ai déjà eu un.
Ah, mais c'est, quand oui. On finit par passer au travers, ça marche.
Ça fonctionne très bien, puis justement, c'est tellement un phénomène d'avoir des animaux qu'il y a des articles qui sont consacrés. Donc, je vais vous parler tout d'abord de l'article consacré dans le magazine Psychologie de août 2024. Alors, on parle de tisser des liens avec un chien, un chat, et on dit même que c'est une relation qui est quasi filiale, au point de lui donner la place de l'enfant qu'une personne ne souhaite pas avoir. Et c'est un phénomène qui est de moins en moins tabou, d'ailleurs, de faire le choix entre un animal ou un enfant là, dans sa vie pour avoir une vie comblée. Et ça porte un nom, c'est le pet parenting, et ce nom-là, cette façon de nommer, vient des États-Unis. C'est se sentir parent d'un animal de compagnie. Alors, c'est l'article, entre autres. Ça part bien, cet article. Alors, ici, on commence en disant, je ne ressens aucune honte ou indécence à lui dire, viens voir maman, ou maman va te donner à manger, à l'appeler mon amour ou mon fils poilu. Mais, mais je vois ça, souvent, les gens me disent, ah, tu viens ta maman t'a amené chez le vétérinaire. Moi, je déteste ça, mais en tout cas. Alors, cette personne-là, qui est vétérinaire elle-même, elle voit bien que ça prête au sourire. Et puis, elle a écrit aussi un livre, c'est Hélène Gâteau, « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant », entre parenthèses, et ça a paru en 2023. Elle a donc une relation fusionnelle qu'elle entretient avec Colonel, son border terrier adoré. Préférer avoir un animal plutôt qu'un enfant. Ben, l'idée ne serait aujourd'hui plus si saugrenue, à en croire justement le succès de son ouvrage et les nombreux témoignages qui affluent sur son compte Instagram. D'ailleurs, il y a Claire qui a 41 ans, qui assume davantage le regard maternel qu'elle porte sur son Yorkshire. D'ailleurs, en juillet dernier, lorsqu'il a subi une anesthésie générale pour une opération des dents, elle était tellement préoccupée qu'elle n'a pas osé en parler à ses collègues pour ne pas passer pour un petit peu fofolle. Et aujourd'hui, elle s'autorise, Claire, à exprimer ce qu'elle ressent pour lui. Et je me suis aussi avouée à moi-même que je ne désirais pas avoir d'enfant. Il y a aussi ce qu'on nomme justement le pet parenting, sentir parent d'un animal de compagnie. Ça se niche au carrefour de plusieurs évolutions sociétales récentes. On pense à l'intérêt accru pour nos animaux de compagnie, on peut le voir ici au Québec. Et en France, entre autres, on y mentionne que 68% des Français considèrent comme un membre de la famille l'animal en question, le chien ou le chat. Il y a d'ailleurs le développement des communautés child-free, ceux qui ne veulent pas d'enfants par choix, contrairement aux childless, ceux qui n'ont pas pu en avoir. Les femmes aussi, d'ailleurs, bénéficient de ces jours de la révolution anthropologique des années 80 qui leur permet de choisir ou non la maternité, alors que jusqu'à cette date, elles n'avaient pas le choix et celle-ci faisait forcément partie de leur destin. C'est ce que relate la psychiatre et psychanalyste Monique Bydlowski. Certaines ne désirent pas d'enfants et trouvent par ailleurs beaucoup plus de plaisir dans la compagnie de leur animal. Il y en a d'autres qui font le lien entre les deux et estiment endosser une autre forme de parentalité à travers leur chien ou leur chat. Donc, l'animal serait donc un objet transitionnel. Et c'est d'après la sociologue américaine Nicole Owens, la construction de la notion de famille autour d'un animal de compagnie devrait être envisagée comme une alternative à la parentalité classique, comme le sont l'adoption ou encore le recours à des méthodes de reproduction médicalement assistées. C'est ce que note Hélène Gâteau dans son livre, entre autres. Et elle-même, celle qui a écrit le livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien » et qui est vétérinaire, elle-même, elle se déclare une véritable « dog mom ». Donc, oui. Il y a les « soccer mom », mais il y a les « dog mom ». Elle, comme elle dit, Hélène Gâteau, « ben je dois éduquer mon chien. lui apprendre à vivre en société, une société humaine qui, en plus, n'est pas faite pour lui. Donc, le nourrir, en prendre soin, l'amener chez le vétérinaire. Il y a beaucoup de choses qui s'apparentent à ce que vivent les gens avec un enfant. Elle poursuit en disant, ben écoutez, je le câline aussi, comme une mère le ferait avec son bébé, j'adore son odeur, etc. Mais opter pour un animal permet aussi de rester dans le contrôle et d'éviter les mauvaises surprises. Ben, d'abord, on peut choisir la race, le sexe, s'assurer de sa bonne santé, puis aussi éliminer tous les risques liés à une naissance. L'animal de compagnie représente quelque chose de l'ordre de l'objet transitionnel. C'est ce qu'estime le psychiatre Philippe Bruneau. Selon sa problématique personnelle, chacun va choisir une espèce qui lui convient. Ben, un chien pour la réciprocité ou encore, on aime bien le chat pour l'indépendance et combler ainsi un manque affectif que les proches ne satisfont pas. En latin, on dit enfant, c'est infans, et celui qui ne parle pas. Infant, celui qui ne parle pas, et l'animal restera un enfant toute sa vie. Parce que c'est sûr, il ne parlera pas, mais peut-être marmonner des petites choses, puis comprendre des mots. Mais on l'a choisi pour sa docilité, son empathie et sa capacité à nous apaiser, à donner beaucoup plus qu'à demander. Et aussi à l'heure où les enfants deviennent des ados hein, pour les parents, de plus en plus tôt, ben, où la morosité ambiante aussi, comme la guerre, chômage, menace sur la planète, génère de plus en plus d'inquiétudes pour leur avenir. Alors que le pet parenting représente pour certaines personnes une sécurité émotionnelle. Claire, qui a 41 ans, qui aime beaucoup son chien, je crois que j'aurais du mal à vivre l'ingratitude d'un enfant. C'est ce qu'elle pense. Et mon chien est toujours partant pour aller se promener, me fait la fête quand je rentre le soir. Ça, c'est tellement agréable. N'est jamais rancunier lorsque je dois le gronder, alors que contrairement à un enfant, l'animal se laisse faire et ne se détachera jamais de vous. C'est un peu comme un doudou vivant avec une fonction thérapeutique. On peut le porter contre son cœur, le caresser à volonté. Ce lien incarne aussi une sorte de maternité idéalisée ou plutôt un désir de materner sans subir toutes les contraintes de la maternité. C'est ce que renchérit Monique Bydlowski, qui est psychiatre et psychanalyste. Alors qu'on les fustige souvent pour leur égoïsme, les pet parents s'estiment au contraire délivrés du narcissisme des parents qui, eux, cherchent parfois à se prolonger à travers leurs enfants, projetant sur eux leurs propres rêves de réussite. Je n'attends rien de moins de mon chien, sinon qu'il soit heureux, affirme Audrey, qui a 45 ans et qui est propriétaire d'un chien qui a aujourd'hui 11 ans. Le fait qu'il fasse partie d'une autre race m'oblige à faire peut-être davantage d'efforts de compréhension qu'avec un humain. Institutrice en primaire et peintre et illustratrice, c'est grâce à son chien qu'elle a renoué avec le dessin et qu'elle ne pratiquait plus depuis longtemps. Il a vraiment, selon elle, réveillé l'enfant émotionnel, cette part d'elle-même avec laquelle elle n'était plus connectée. Puis d'ailleurs, avec son chien qui a 11 ans, avec lui, j'ai de nouveau 7 ans, on joue à cache-cache dans la maison et on se fait des blagues. Alors, imaginez. Pour Audrey aussi, l'adoption d'un animal a été l'occasion de faire le point sur son désir d'avoir des enfants. Elle croyait qu'elle en voulait, mais en fait, c'était surtout une histoire de pression sociale. Elle avait fait une fausse couche et au moment où elle a eu son chien, sa relation avec le chien est devenue tellement forte qu'elle n'a plus eu envie d'avoir d'enfants. Même si, d'ailleurs, aucune étude précise n'existe sur le sujet, nouer un rapport quasi filial avec son animal semble concerner en majorité les femmes. Alors ici, dans l'article, on ne parle pas d'hommes. Hein? Peut-être parce que la charge mentale liée à la parentalité pèse encore davantage sur leurs épaules. Sans doute aussi parce que les filles, bien plus que les garçons, sont élevées dans l'idée qu'un jour, elles auront à leur tour des enfants. Alors, devenue adulte, une femme a toujours un enfant dans la tête, c'est ce qu'analyse Philippe Breneau. Même si elle assume son choix de ne pas en avoir, materner un autre être vivant lui enlève peut-être une forme de frustration ou d'incomplétude inconsciente. Et un animal, c'est sûr, ne viendra jamais vous demander des comptes ou encore vous reprocher d'avoir été un mauvais parent. Quand même intéressant comme article. Ce serait intéressant, par contre, de savoir pourquoi que les hommes ont des chiens et certains types de chiens. Ce serait intéressant, ça. Il y a une autre chose qui était mentionnée dans cet article. Il y a des chiens qu'on voit des fois passer en pousse-pousse. Alors, il faut faire attention à l'anthropomorphisme.
Oui,
c'est-à-dire les petites poussettes ou les porte-bébés pour chiens, les garderies canines qui proposent de nombreuses activités, des friandises. C'est des animaux affublés de prénoms humains. Nous avons tendance à traiter nos compagnons à quatre pattes de manière de plus en plus humaine. Mais il faut faire attention justement à ce grand mot-là qui est l'anthropomorphisme, qui peut s'avérer dangereux pour l'animal comme pour son maître. Parce qu'un chien, il ne faut pas l'oublier, ça reste un chien. C'est ce que mentionne Hélène Gâteau, qui est vétérinaire. Le chien a besoin de courir, d'interagir avec ses congénères, de se rouler dans la boue. Et bien, après ça, on lui donne un bon bain. Puis on peut l'aimer autant qu'un enfant, mais il ne faut pas le traiter comme tel, parce que le porter tout le temps dans les bras ou trop le pomponner, ben c'est pas bon. Et pour être épanoui, et aussi pour que le maître aussi le soit aussi, il a besoin d'avoir, il faut bien y penser, une belle vie de chien. Ouais. Absolument.
Un chien, c'est un chien.
Un chien, c'est un chien. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est mon sujet. Puis là, par hasard, coïncidence, dans la presse, il y avait justement cet article qui est paru hier dimanche, le 5 octobre. On parle de quatre jeunes femmes qui ont décidé, qui sont dans la trentaine, qui ont des vies épanouies, des vies très organisées dans leur travail et qu'elles ont décidé de ne pas avoir d'enfants, mais d'avoir une belle carrière et d'avoir des relations nourrissantes. Puis entre autres, bien spéciales, des relations spéciales avec leur chien. Et puis, il y en a une dame ici qui dit, Poméline, elle dit, j'ai aucun problème après mon travail d'amener mon chien au parc. C'est pas pire que les parents qui amènent leurs enfants au parc s'amuser. Et puis, quand ils viennent à la maison avec leur chien, avec leurs enfants, ben moi aussi, j'ai le droit d'amener mon chien parce que je l'élève bien, puis je pense qu'il peut bien faire l'affaire chez les gens. La procréation, on dit aussi dans l'article, c'est pas la seule base pour une vie épanouie. Ils disent souvent, ces dames-là, qu'elles ont beaucoup de responsabilités et qu'avoir un enfant, ça serait de trop et que les contraintes d'avoir un chien sont minimes par rapport au bonheur que ça leur procure.
C'est bon pour la santé d'avoir un chien, c'est démontré parce que ça...
Ben oui.
Il y a des études qui démontrent que ça aide à baisser la tension sanguine, la tension artérielle. Il faut dire qu'il faut prendre ses médicaments quand même, là.
Oui,
ça a un effet, c'est démontré. Et c'est très bon aussi pour la santé mentale.
Oui.
Alors, c'est bon, ça vous force à sortir aussi. Mais il faut tenir en compte que lorsque vous achetez un chien, ça va vous coûter à peu près 20 à 25 000 $ dans la vie du chien pour s'en
Absolument.
Occuper.
Tout à fait.
On va arrêter là, Daniel, mais cela dit, wouf wouf, on aime bien nos chiens.
Wouf wouf, à la prochaine.
À la prochaine. Nous, on va revenir après la pause musicale.
Théo quotidien avec Denis Martin Chabot.
Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Rien ne fit si tout va pour le mal, ça frôle la guerre mondiale. La planète est adieu et à craindre. Et comme les gens seront toujours les gens, ce qui se rapproche le plus de l'infini, ça reste l'humanité et l'étendue de sa connerie. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Wow! Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Ici on se nourrit de mirages en guise de bons présages. Rien n'a changé, chacun dans sa niche.
seront pauvres et les riches seront riches. Les créateurs de contenants stupides nous scellent l'âme sous. C'est que tu veux, l'horreur est humaine. Comme on dit, ça prend beaucoup d'humour. Oh non, c'est pas demain la veille que les hommes vivront d'amour. Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. Tout est plus triste depuis. Tellement plus triste depuis. T'es plus triste depuis que tu es parti, mon ami.
JF Posé, la chanson Ballon Sonde.
Alors, c'est le 6 octobre et pas le 6 juillet, même si le temps qu'il fait présentement dans le sud du Québec, en Ontario et dans les Maritimes laisse entendre que ça serait présagé que ça sera encore l'été. Mais non, ce n'est plus l'été. Cela dit, on va aller faire un petit tour du côté de Louis de Bernier. C'est la chronique des Nouvelles Insolites. Alors ça, c'est vraiment intéressant. On annonce la mort de quelqu'un, puis pourtant, il était bien éveillé en vie.
Oui, effectivement, c'est peut-être une des pires craintes pour des parents, hein, voir la police sonner à votre porte pour annoncer qu'il est arrivé quelque chose à l'un de vos enfants. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'était le 15 août dernier, aux parents de Nathan Blake, rapporte notamment le Daily Mail. Deux agents donc viennent leur annoncer que leur fils de 35 ans est malheureusement décédé en Espagne. Une nouvelle impossible à croire, leur fils habite à deux pas de chez eux et il n'était pas en Espagne à ce moment-là. Heureusement, dans ce cas-là, la mésaventure n'a pas pris des tours trop dramatiques. Le trentenaire était en réalité dans son bain à ce moment-là, aux alentours de 22h, lorsqu'il a reçu l'appel un peu surréaliste de ses parents. Il s'est immédiatement précipité chez eux, passeport en main, pour prouver qu'il était bel et bien vivant. Le lendemain, il a également dû se rendre au consulat afin de comprendre ce qui s'était passé. Tout ce qu'il y a derrière cette histoire, c'est une histoire d'escroquerie et c'est pour ça qu'il faut en parler aussi. Ça arrive de plus en plus, malheureusement, de nos jours. Nathan a découvert qu'un imposteur se faisait passer pour lui depuis près de 3 ans. Arrêté en 2022 à Barcelone, cet imposteur avait de faux documents et avait donné le nom de Nathan Blake et son numéro de passeport. Selon toute vraisemblance, il lui avait volé ses informations quelques mois plus tôt, alors que Nathan se trouvait en Espagne pour un enterrement de vie de garçon d'un de ses amis. Le principal intéressé, encore un peu sous le choc, a raconté « Mon corps est entré en état de choc, j'étais assez secoué, c'était surréaliste, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une blague ou d'un canular ». Il est même prudent, sur le moment, un temps, il a même cru à de faux policiers et s'est dit qu'il y avait une machination en route qui était venue annoncer sa mort. Mais quand il a vu ses parents, il a fini par comprendre que tout ça était bien réel. Je suis allé m'asseoir avec eux, ils allaient bien, ma mère n'arrivait simplement pas à y croire, mon père était un peu déconcerté et on l'imagine. Ce qui a heureusement tout simplifié dans l'affaire et n'a pas inquiété plus ses parents plus que ce qu'il aurait fallu, c'est qu'une heure avant, il avait envoyé un message sur un groupe familial, donc ce qui a permis de lever quand même assez rapidement les doutes. Pourtant, l'affaire n'est pas close pour Nathan. Il figure désormais dans les fichiers de la police espagnole. Voilà, il le sait à partir de maintenant avec un casier judiciaire qui ne lui appartient pas. Il n'a rien fait de mal. Il vit depuis dans la crainte d'être bloqué à l'étranger si jamais il voyage, d'être arrêté dans un aéroport. « Je suis innocent dans cette affaire, dit-il, c'est assez injuste, je stresse pour tout ça, je veux juste que ce soit résolu, donc l'histoire n'est pas terminée. » Et ça fait écho à une vidéo que j'ai vue très récemment qui dit, vous savez, quand on loue parfois sur Airbnb ou ailleurs des appartements, on vous demande une photocopie de carte d'identité ou de passeport, il faut le faire, mais dans la mesure du possible, rajouter un filigrane, une inscription en travers pour que cette photo ne puisse pas être réutilisée éventuellement ensuite si c'est piraté. Ouf. C'était un des conseils qui était donné dans la vidéo que j'ai vue.
Je vais juste imaginer recevoir un appel. Bonjour, êtes-vous mort?
Oui, non, c'est des situations complètement surréalistes qui peuvent survenir.
Aïe, 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 aïe. Bon, on va aller maintenant dans les bonbons.
Oui, et c'est un autre Britannique et il s'appelle lui aussi Nathan. C'est pas le même, ça ferait beaucoup pour un seul homme. Il est chauffeur routier britannique et la gourmandise est pour lui un peu plus qu'un vilain défaut. Elle lui a coûté cher, très cher, une semaine d'hospitalisation. Sa mésaventure remonte à l'année dernière. Il lui a visiblement fallu un peu de temps pour digérer tout ça, dit l'article, et en parler. Nathan Remington, c'est son nom, 33 ans, témoigne aujourd'hui dans les colonnes du Mirror et assure que les bonbons, c'est fini pour lui à vie. Tout a commencé sur Amazon. Le trentenaire commande un jour un paquet XXL, comme on en trouve peu, pas souvent dans le commerce de détail. Il se fait livrer un beau gros paquet de 3 kilos de ses bonbons préférés. Vous savez, les petites bouteilles de cola Haribo qu'on connaît, qui existent depuis des années.
Je les aime pas, ces bouteilles-là.
Le montant de la transaction est intéressant, c'est pour ça qu'il l'a acheté. 18 livres sterling, on parle d'environ 30 dollars canadiens pour 3 kilos de bonbons, c'est intéressant. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais ses sucreries vont lui coûter beaucoup plus cher que 18 livres sterling. La livraison géante est engloutie à une vitesse impressionnante. En seulement 3 jours, Nathan vide le paquet. Il s'était fixé un petit rituel après le souper. Les bonbons aromatisés au cola berçaient ses soirées et étaient un peu comme son dessert. Dans un premier temps, aucun symptôme ne s'est manifesté, mais environ 48 heures après avoir ingéré les derniers bonbons, de violentes crampes à l'estomac sont apparues. J'avais terriblement mal au ventre, on l'imagine. Je ne pouvais pas sortir du lit, je transpirais, c'était horrible. Le trentenaire consulte son médecin traitant. J'étais allongé par terre dans la salle d'attente à cause des douleurs. Et il omet à ce moment-là, sciemment, il fait exprès, il omet de lui parler de l'épisode des confiseries. Le généraliste relève une tension artérielle trop forte, un état général inquiétant qui nécessite une prise en charge immédiate. Il est donc admis aux urgences de l'hôpital de Rotherham, près de Sheffield. Le patient subit une série d'examens qui révèlent des niveaux absolument énormes de gélatine dans ses intestins. Il souffre d'une diverticulite aiguë, une infection du gros intestin en fait. Et ce n'est qu'à l'issue de ce diagnostic que Nathan avoue, penaud, s'être gavé de 3 kilos de bonbons en l'espace de 3 soirées. Les médecins ont beaucoup rigolé, dit-il. Placé sous perfusion avec interdiction de manger, il restera pendant 6 journées entières sous surveillance à l'hôpital. Aujourd'hui, le chauffeur est totalement remis. Il a dû laisser passer encore du temps avant d'en parler à la presse. Et il est complètement abstinent. Pour son anniversaire, un de ses meilleurs amis, un peu taquin, on va dire, lui a offert un autre sac de 3 kilos de bouteilles de cola pour plaisanter. Mais c'est comme un syndrome de stress post-traumatique pour lui, il n'y touchera pas. Et quand il voit une bouteille de coca, dit-il, je me dis que je vais finir aux urgences. Le voilà donc un peu traumatisé et sa consommation de sucre va baisser dans les années qui viennent, c'est certain.
Ah là 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 là, des bonbons. Bon, ben écoute, maintenant je me demande toujours c'est quoi la facture du dentiste aussi qui vient avec ça.
Oui, oui, on n'a pas le montant ni même de celle de l'hôpital, mais ça doit être assez élevé.
Bon, morale de cette histoire, 3 kilos de bonbons, ça se mange pas en 3 jours.
Non, on le savait déjà, mais c'est confirmé.
Merci beaucoup, Louis.
Je sais plus où on s'en va quand je check les nouvelles. 2 minutes, gouvernées par du monde qui savent même pas combien ça coûte une pinte de lait. Un gagnant à vie, puis un paquet d'exportés. Les élections, c'est comme on dit, tu votes pour ton clown préféré. J'ouvre TikTok, j'entends 2 doudes me dire qu'il faut pas, je laisse ma blonde clober. Entre 2 pubs de filles qui veulent me vendre des produits de beauté. Y'a-tu une crème qui va m'empêcher de broyer? Le gaz est à 2 piastres. Pis du buzz, c'est plus achetable. J'suis de moins en moins peace and love. Y'a des bonnes chances que ça revole. J't'avais de break stuff. Oh my god, c'est sûr que j'pète une coche comme si j'étais à Woodstock. Oh my god,
c'est sûr que je pète une coche, comme si j'étais à Woodstock.
Je veux qu'on fume un blunt de out autour d'un feu dans le pit de sable. Je veux qu'on aille skater dans le zéleuse jusqu'à temps qu'il nous crisse dehors. Je veux split un set de moche en gang, puis faire comme si j'étais pas tant high. Même si rendu chez nous, mon chien se tient debout comme Brian dans Family Guy. Mais non, à place, je regarde les commentaires sur Instagram, puis je comprends mieux pourquoi y'a du monde qui veulent pas se montrer la face. Je te garantis que la terre est ronde, même si Chris que le monde est plate. T'as le gars dans le casque qui joue de la flûte comme si ça allait pas déjà assez mal. J'pense qu'on est en marde. J'ai des amis qui travaillent chez McDonald's.
J'suis de moins en moins peace and love. Y'a des bonnes chances que ça revole. J't'avais de break stuff.
Oh my god, oh my god. C'est sûr que je pète une coche comme si j'étais à Woodstock. Oh my god, oh my god. C'est sûr que je pète une coche comme si j'étais à Woodstock.
Woodstock, une chanson de Jay Scott.
Ah, j'aime beaucoup, ouais, Jay Scott. Il me fait bien rire dans ses chansons. On va parler de théâtre maintenant. Notre invité aujourd'hui, Camille Paré-Poirier, c'est une voix puissante du théâtre contemporain québécois qu'on a aimé pour sa pièce primée « Je viendrai moins souvent » et son recueil « Dis merci ». Elle revient sur scène avec une nouvelle œuvre intime, sensorielle, « Dedans, dehors ». Cette création, présentée en co-diffusion avec le théâtre, le Centre du théâtre d'aujourd'hui, sera présentée donc à la salle Jean-Claude Germain du CTDA du 14 octobre au 1er novembre. Bienvenue, Camille Paré-Poirier, ça va bien?
Oui, oui, très bien, merci.
Alors, après le succès de votre recueil de poésie narrative, Dis merci, qu'est-ce qui vous a poussé, avec la metteuse en scène Laurence Daffinet, à faire le saut vers une réécriture dramatique pour la scène, donc avec Dedans, dehors?
Oui, en fait, mon premier spectacle, Je viendrai moins souvent, avait eu une étape antérieure qui était un balado.
Ouais.
Il est quelqu'un d'immortel qui est disponible d'ailleurs sur audio. Puis je pense que pour moi, ça faisait beaucoup de sens de faire un deuxième projet où je mélangeais différents médiums. Puis dans ce cas-ci, c'était le matériau poétique, donc le recueil de poésie que j'avais déjà écrit, Dis merci, pour m'en inspirer, puis amener des médiums non théâtraux au théâtre. Et aussi, le premier spectacle portait sur la fin de vie de ma grand-mère et la prochaine danse et la traversée du deuil en milieu hospitalier d'une personne âgée. Puis c'est Dis merci, en fait, c'est l'histoire d'une adolescente qui découvre, dans le fond, qui vit sa puberté, son adolescence, le début de la vie à l'hôpital. Mmh. Donc pour le processus de création, pour moi, ça avait beaucoup de sens que ce deuxième spectacle-là explore l'autre pôle de la maladie, c'est-à-dire au début de la vie avec la jeunesse.
Ce spectacle s'inspire d'une expérience intime et marquante vécue à l'adolescence. De quelle expérience s'agit-il?
Oui, en fait, moi, je travaille beaucoup en autofiction, donc c'est encore une fois une histoire personnelle ancrée dans le réel. Moi, à l'âge de 12 ans, on a trouvé le long de ma colonne vertébrale une tumeur de 12 pouces. Mmh. Qui était probablement là depuis ma naissance. Puis ça a été très long à diagnostiquer parce que j'avais des symptômes très étranges puis qui ne concordaient pas là, pour avoir un diagnostic clair. Donc, fait que j'ai passé quand même beaucoup de temps dans les hôpitaux et à passer toutes sortes de tests pour finalement qu'on trouve qu'est-ce qui se passait. J'ai été opérée, on a retiré la tumeur, mais ça a été quand même une opération assez intense là, tout le long de la colonne vertébrale, le long des vertèbres. Et après ça, ben, ça en est suivi de la réadaptation, de la médication, un retour à l'école. Et j'ai porté aussi un corset orthopédique après ça pendant près de 3 ans. Mmh. Donc, mon secondaire a vraiment été teinté par cet univers médical-là dans lequel j'essayais de naviguer. Donc, c'est ça. Puis en 2021, je pense, j'ai voulu écrire cette histoire-là. Puis c'est de là qu'est né le livre « Dis merci ».
Alors, comment avez-vous travaillé là, cette matière qu'on dit autobiographique ou autofictive, mm-hmm. peut-être, pour que ça puisse résonner au-delà là, de l'expérience personnelle?
Oui, ben c'est toujours moi ce qui m'intéresse, c'est que j'essaie de raconter une histoire personnelle, mais le but pour moi, c'est de raconter une belle histoire, une histoire intéressante dans laquelle les gens vont se sentir impliqués, engagés. Justement, tu sais, pour moi, l'autofiction, c'est pas du tout de faire ma thérapie sur scène ou de raconter une histoire personnelle parce que j'en ai besoin. C'est plutôt que cette expérience-là m'a amené toutes sortes de réalisations, de réflexions sur la vie, sur la maladie, sur la guérison que j'avais envie de partager à un public. Et ce qu'on a fait aussi pour la pièce de théâtre, qui est assez intéressant, c'est qu'on est deux interprètes à se partager mon rôle. Donc, on a une jeune interprète de 18 ans, Anne-Florence, qui joue mon propre rôle, mais à l'âge de 12 ans. Mmh. Qui fait de moi, dans le fond, c'est moi qui porte beaucoup la charge poétique du spectacle. Donc, moi, je suis comme la narratrice extérieure. C'est comme si j'avais la tête au-dessus de l'aquarium puis que je revivais ces événements-là en me souvenant. Et donc, ça nous permettait beaucoup de procédés intéressants, là, de nous faire échanger de place, de nous faire bouger ensemble, se ressembler, puis de l'avoir donc évolué à travers. Pour moi, ça faisait beaucoup écho à ce que beaucoup d'enfants malades, je pense, vivent à l'hôpital, qui est de se sentir vieillir trop vite. Donc, d'avoir l'impression d'être une adulte dans un corps d'enfant, puis après ça, dans la vie adulte, d'être encore une enfant, mais là, abandonnée un peu dans la vie adulte.
Il y a comme un conflit, si on peut dire, entre l'intimité là, de l'adolescence et puis l'intrusion médicale. Comment ça se traduit sur scène, ça?
Oui, bien, exactement. Moi, j'ai voulu faire beaucoup de parallèles entre la puberté, donc la découverte justement de l'intimité, de la sexualité, le rapport à notre propre corps qui change, en parallèle avec cette intrusion-là du monde médical. Donc, je me suis amusée à faire des liens entre l'intrusion d'une première fois, d'une première expérience sexuelle et l'intrusion aussi d'une opération, d'une chirurgie aussi intense, puis les traces qu'elle peut laisser et qui peuvent après ça teinter la sexualité, la puberté. Fait qu'effectivement, pour moi, il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire entre aussi un monde médical qui peut être à la fois très enveloppant, très dans le soin, mais aussi très froid, très concret, très informatif, beaucoup de mots aussi qui ont peu de sens dans la tête d'une enfant. Fait que pour moi, il y avait cette découverte-là du monde médical, mais qui est aussi la découverte du monde adulte, la découverte de trucs qu'on ne connaît pas puis qu'on essaie de comprendre à mesure.
Je me demande si ça serait pertinent, mais est-ce que vous faites aussi une réflexion là, sur le soin au féminin là, quand les femmes se retrouvent devant ou dans le système de santé?
Oui, ben c'est vraiment une réflexion qui a beaucoup habité mon écriture, mais qui se retrouve, pour moi, c'est peut-être en filigrane dans la pièce de théâtre parce que ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était présenter le milieu médical comme un milieu masculin. Mmh. Dans la pièce de théâtre. Donc, dans le livre, c'était beaucoup plus une lettre d'amour à ma mère, en fait. Donc, le personnage de la mère était très important. Puis là, pour la pièce de théâtre, le fait d'avoir des interprètes masculins, donc il y a Anne-Florence et moi sur scène, mais on est entourés d'hommes. Donc, il y a le personnage du père, il y a le neurochirurgien, puis il y a tous les autres personnages masculins qui gravitent autour de Camille. Puis, donc, c'était une réflexion sur le soin, mais sur, en fait, pour moi, il y a ces deux pôles-là dans le monde médical. Il y a quelque chose qui est très associé au masculin pour moi, puis quelque chose qui est très associé au féminin aussi, là, dans ce qu'on apprend sur ces deux genres-là en vieillissant. Ouais. Donc, je voulais les mettre en parallèle. Puis, pour moi, c'est justement la présence de soins. En fait, le soin était extrêmement présent dans ma première pièce de théâtre, puis dans le care, là, le rapport aux soins très empathique, très doux, très bienveillant. Puis là, on est dans une pièce où est-ce que, justement, c'est beaucoup, beaucoup plus austère, beaucoup plus croix.
Bien, on le sait, hein, le système de santé, quand on parle de santé, non pas de care, comme vous dites, là.
Ouais.
Le système de santé est très... en fait, c'est beaucoup encore des hommes hein, qui gèrent ça, bien que ça y a des changements. Et souvent, je lisais même des études sur les soins de santé hein, qui disent que les études ne sont jamais faites tant sur les femmes parce qu'on a peur d'avoir une différence avec les lorsqu'elles tombent enceintes, etc. Alors, il y a encore, mm-hmm. il y a encore ce sexisme au niveau de la santé. Alors, j'imagine...
Oui, tout à fait. Le milieu médical, en fait, souvent les deux idées qu'on a, c'est soit l'archétype de l'infirmière,
ouais,
qui est la maternelle, enveloppante, tout ça, puis l'archétype du neurochirurgien, qui est la personne qui a fait beaucoup, beaucoup d'études, qui est dans la tête, qui est concrète et qui est moins accessible. Puis c'est aussi deux classes sociales et classes de revenus extrêmement opposés dans nos têtes. Donc, moi, tout cet univers-là m'intéressait beaucoup parce que, justement, ça recoupe beaucoup de choses qu'on voit ailleurs puis auxquelles j'espère que les gens vont pouvoir s'identifier.
J'ai l'impression aussi que dans cette pièce, il y a comme une question qui est posée, qui semble centrale. C'est quoi guérir au juste? Vous dites qu'une fois la tumeur disparue, vous avez l'impression qu'une partie de vous était restée à l'hôpital. Alors, en quoi cette pièce-là va explorer cette guérison qui est plus qu'un simple diagnostic médical, finalement?
Oui, bien... C'était le personnage de la jeune Camille, pour moi, c'était une belle façon d'imager sur scène, de poétiser cette sensation-là, d'être un petit peu restée à l'hôpital après. Puis, j'ai réalisé en écrivant le texte que pour moi, le concept de guérison, c'est quelque chose qui est vraiment étudié et qui est mal compris parce que souvent, la guérison, on dirait qu'on pense que c'est un retour à avant, c'est un retour à un état qui est antérieur. Alors que pour moi, la guérison, c'est un énorme deuil. C'est de réaliser qu'on ne sera plus jamais la personne qu'on était avant cette traversée-là dans le monde médical. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu de graves maladies qui pourraient s'identifier à ça. Puis c'était ça dont je voulais parler, de cette espèce de sensation que les gens autour de nous ont de soulagement, mais que des fois, de l'intérieur, on ne ressent pas vraiment parce qu'on est changé à jamais. Mmh. Et cette part-là de nous suit après, puis le personnage dans la pièce de théâtre développe un petit peu une obsession pour l'univers médical. Puis puisqu'elle est à l'adolescence, en pleine puberté, elle se met à avoir des formes de fantasmes, en fait, du retour de ce monde médical-là qui finalement, même si elle a haï être malade, elle s'en ennuie aussi parce qu'elle était le centre d'attention, parce qu'elle vivait quelque chose d'extraordinaire. Puis là, tout d'un coup, elle était, entre guillemets, guérie. Tout ça s'est enfui, toute cette attention-là est partie, puis elle doit maintenant juste exister, être une humaine normale, puis elle ne sait plus comment faire.
J'ai le goût de poser une question très personnelle. Comment allez-vous maintenant?
Très bien, très bien. Oui, bien, tu sais, moi, en autofiction, c'est ça, il y a comme, pour écrire, je pense, un bon spectacle ou une bonne histoire, il faut se plonger complètement dans un univers, dans un thème. Puis, fait que pour moi, le sujet de la pièce est devenu une obsession dans l'écriture, mais dans ma vie à moi, c'est pas une obsession à tous les jours non plus. Puis l'écriture du livre en 2021 m'a quand même permis de réaliser que grâce à ça, je pense que n'importe quoi dans la vie qui est très marquant peut vraiment modifier notre parcours, puis nous faire prendre une direction différente. Puis aujourd'hui, ça va super bien. Je suis très heureuse justement par l'écriture. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de privilèges puis de belles opportunités artistiques. Donc, je suis vraiment à une place où je voudrais pas maintenant pas avoir vécu ça parce que je sais pas j'aurais été qui sinon. Tu sais, c'est comme ça fait tellement partie de moi. Puis je trouve que c'est quand même un privilège de pouvoir explorer ça dans mon travail puis d'en parler puis de normaliser aussi des discussions autour de la maladie puis des répercussions. Oui. Dans réel, aussi négatif que positif dans notre vie. Mais oui, je suis vraiment... Ça va très, très bien. C'est ce que tu demandes.
La santé physique et mentale semble aller bien après tout ça, là. C'est ça.
Oui, c'est ça. Ben, j'aborde un petit peu dans la fin de la pièce de théâtre le sujet un peu, pour moi, méconnu de la douleur chronique. Donc, c'est sûr que moi, dans les dernières années, j'ai réalisé que j'avais des douleurs, en fait, qui persistaient. Puis on dirait que j'avais toujours un espoir qu'un jour, quand je serais assez... quand je serais tout bien, elle disparaîtrait. Puis j'ai vraiment, ça a été quand même un épisode particulier, ça, mais de réaliser que j'allais devoir composer avec ça maintenant pour le reste de ma vie, probablement. Mais en même temps, c'est un apprentissage comme un autre. Puis je réalise en vieillissant qu'on a toutes nos histoires, on a toutes nos petites bébites à nous. Puis ben ça, moi, c'est ma bébite, là.
D'accord. Il reste beaucoup de temps, mais j'aimerais aborder quelques thèmes au sujet de la pièce de théâtre. J'ai lu qu'il y avait beaucoup, il y avait de l'humour, un humour discret. C'est important de traiter le sujet avec cette poésie et cet humour en même temps?
Essentiel pour moi. On dirait que plus je veux aller profondément dans de la douleur puis dans des sujets tristes, plus c'est important pour moi qu'il y ait de l'ironie, qu'il y ait de l'humour. J'ai l'impression que l'humour, souvent, c'est quelque chose qui va permettre au public de d'ouvrir les canaux puis d'être réceptif à la douleur ensuite. Sinon, c'est trop triste. Puis pour moi aussi, c'est un des plus gros fous rires que j'ai eu dans ma vie, c'était à des funérailles, tu sais, puis c'était super triste. Mais on dirait que pour moi, ces émotions-là cohabitent ensemble parce que c'est très humain. Puis justement, un drame, ce n'est pas que dramatique. Il y a des moments, puis je pense que c'est là des fois qu'on arrive à s'identifier puis à être touché. C'est dans l'absurdité de certains moments, puis cet humour-là, des fois, qui nous raccroche les uns aux autres.
Ben, en fait, je vais reprendre peut-être une expression très shakespearienne, ils appellent ça le comic relief, hein, parce que des fois, on a besoin de rire un peu pour mieux absorber la matière.
Oui, ça fait relâcher.
Ah, Camille Paré-Poirier, j'ai hâte de voir cette pièce-là qui s'appelle donc Dedans, dehors, une création de vous. Ça va être au Centre du théâtre d'aujourd'hui, la salle Jean-Claude Germain du 14 octobre au 1er novembre. Les billets sont en vente. Vous allez sur le site web du Centre du théâtre d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Au revoir. Ah, l'Ozempic, selon le Soleil, le célèbre médicament amaigrissant, peut-il nuire à la santé mentale? Une question que plusieurs se posent. Selon de récentes études rapportées par le Soleil, il n'y a pas de lien établi entre le sémaglutide, le médicament donc, et l'apparition de psychose. Alors, au contraire, le médicament a même été testé sans danger pour des patients qui prennent des antipsychotiques. Bon, alors, un bon point pour l'Ozempic. Je vous rappelle donc que c'est une journée particulièrement chaude dans le sud du Québec, en Ontario et dans les Maritimes. C'est un peu plus frais dans le reste du pays. Après la pause, on va parler donc de cette semaine sur le traumatisme. Comment est-ce qu'on dit? Traumatisme crânio-cérébraux. On va parler de ça tout de suite après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Seul, j'ai toujours voulu affronter la peur. J'ai voulu rester forte et pas m'y faire. Mais pourquoi aujourd'hui je veux me taire? Parce qu'on m'a toujours dit de ne pas déplaire. Garder tout bas ce que j'ai à l'intérieur. Jurer de ne pas montrer tout mon meilleur. Quand je suis trop petite dans ce grand univers. Mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs, je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Même si la fille en moi se sent minable, je verrai à ce qu'on trouve qu'il y a de la douceur. Dis-moi comment j'ai pu arriver jusqu'ici. Dans ma tête, y'a pas de place, j'en paye le prix. J'ai attendu toute ma vie qu'on me dise oui. Je veux pas fermer ma gueule et laisser les paris gagner sur moi et briser tout ce que j'accomplis. Si tu veux me taire, c'est parce que tu n'as pas compris. L'égalité, c'est beaucoup plus que des moqueries. Mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs, je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Même si la fille en moi se sent minable, je verrai à ce qu'on trouve que de la douceur. Enfin, et pourquoi pleurer? Laissez-moi être et crier ma voix. Je veux seulement trouver ma voix, mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs, je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Même si la fille en moi se sent minable.
C'était la chanson Minable de Catherine Sans Regret.
Mais on sent pas minable, nous autres. On sent bien aujourd'hui. Une belle journée d'été, un 6 octobre. Et ben, c'est une belle journée d'été, mais bon, ça va se refroidir, vous le savez, hein, c'est clair que l'automne s'en vient. La semaine prochaine, enfin dans deux semaines, du 15 au 21 octobre, se tiendra la Semaine québécoise des traumatismes crânio-cérébraux, un événement annuel d'importance qui met en lumière une réalité encore trop méconnue, celle des personnes vivant avec un traumatisme crânio-cérébral ainsi que leurs proches. Pour en parler, nous recevons Marjolaine Toupet, directrice générale de Connexion TCC.QC, donc Traumatisme crânio-cérébral Québec, un regroupement provincial qui soutient les 13 associations régionales œuvrant auprès de cette population partout au Québec. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci.
Alors pour commencer, on va expliquer c'est quoi un traumatisme crânio-cérébral et quelles sont les principales causes.
Un traumatisme crânio-cérébral, c'est vraiment un accident qui est causé par différentes raisons. Ça peut être un accident de la route, ça peut être une agression, ça peut être un accident de travail, une chute, un coup lors de la pratique d'un sport. Il y a vraiment une multitude de causes, la violence conjugale. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir... Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui est imprévisible. Donc, c'est un accident, la personne reçoit un choc à la tête et en général, il va avoir là, différentes niveau de gravité pour le traumatisme crânio-cérébral qu'on appelle l'acronyme un TCC. Mm-hmm. Donc, des personnes qui ont un TCC léger, c'est l'équivalent d'une commotion cérébrale. Donc, il peut y avoir une perte de conscience. Il y a des effets secondaires, mais qui vont se dissiper plusieurs semaines après l'accident. Tandis qu'un traumatisme crânio-cérébral modéré ou grave, à ce moment-là, il va y avoir une hospitalisation. Il y a une durée de coma qui peut être beaucoup plus élevée. Il y a des séquelles permanentes qui vont être accompagnées. Là. La personne, sa vie va changer là, du tout au tout et elle va avoir à réapprendre différentes choses.
Alors, Connexion TCC-QC regroupe 13 associations régionales. Comment ce réseau agit-il concrètement pour soutenir les personnes qui vivent avec un TCC et leurs proches aussi, hein, parce que ça affecte les proches?
Tout à fait. Les personnes qui subissent un accident grave vont généralement passer par le système de la santé, donc ambulance, hospitalisation, réadaptation. Ça, c'est le système de santé au Québec qui prend en charge tout le volet physique de la personne. Il y a le dernier maillon du système reconnu qui s'appelle la réintégration sociale. Donc, c'est des organismes communautaires qui prennent en charge pour les personnes qui le désirent des services de réintégration, que ça soit de l'occupationnel parce que les gens ne peuvent plus aller au travail. Il y a du soutien psychosocial aussi qui est accompagné pour pouvoir réapprendre plein de choses. Mais il y a aussi toute la dimension de l'isolement social parce que les gens... deviennent une personne différente dans la plupart des cas. Donc, que ce soit un époux ou une épouse qui ne reconnaît pas nécessairement la personne avec qui était en couple avant, ou des parents, ou des enfants, ou des amis, ces personnes-là, soit leur réseau social va diminuer ou va drastiquement changer. Donc, elles ont besoin vraiment de se retrouver auprès de personnes qui ont vécu la même chose pour pouvoir, que ce soit les proches ou les personnes qui ont subi un TCC, de pouvoir en parler avec des gens qui l'ont vécu. Puis aussi, j'ai envie de se donner des stratégies pour mieux vivre avec cette nouvelle condition.
Parce qu'on parle de conséquences, parfois on va être perte de mémoire, des fois ils ne reconnaissent plus les gens autour d'eux ou d'elle, et parfois il y a des problèmes aussi moteurs qui viennent avec ça, parce que sait-on jamais dépendant où la personne a le choc. Alors c'est beaucoup d'adaptation, tant pour la personne que pour les gens qui vivent avec. Là.
Les séquelles sont extrêmement variées parce que d'abord la nature de l'accident va vraiment être différente d'une personne à l'autre. Ça dépend où on a reçu un choc à la tête. Est-ce qu'on l'a reçu à l'arrière? Est-ce qu'on l'a reçu sur le front? Moi je suis pas neuropsychologue, là, mais ça dépend vraiment quelle zone du cerveau qui a été affectée. Alors, il peut y avoir des séquelles physiques, des paralysies, des pertes d'équilibre, mais il peut y avoir aussi des séquelles qui sont cognitives. Donc, les personnes vont avoir des troubles de mémoire, elles vont avoir de la difficulté à réguler leurs émotions, elles vont avoir de l'inhibition, donc dire tout ce qu'elles pensent. Là, souvent, on le caricature, mais ça arrive, là, cette perte de filtre-là, de l'impulsivité. Donc, de la joie extrême, de la colère extrême, tout ça en l'espace de 2 minutes. Donc, il faut apprendre à vivre avec ça.
C'est vraiment pas facile à vivre, en effet. Alors, quel type d'activité, là, vous avez... En commençant par cette semaine-là, là, c'est quoi l'objectif principal de la semaine de sensibilisation?
Bien, le nom le dit, hein, c'est la Semaine québécoise du traumatisme crâno-cérébral. Un des objectifs principaux, c'est que la population en général connaisse c'est quoi le traumatisme crâno-cérébral, c'est quoi la vie de ces gens-là, et puis c'est quoi le défi de ces personnes-là et des personnes qui les entourent aussi. Donc, puis souvent, les personnes qui ont eu un traumatisme crâno-cérébral nous ont dit « Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant d'avoir mon accident, puis je pense que j'aurais été mieux préparée puis mieux outillée si j'en avais entendu parler. » Donc ça, c'est une des choses pour lesquelles on se dit, ben c'est comme un double objectif. C'est de bien connaître, de mesurer sa prise de risque aussi. Il y a un aspect prévention dans cette action-là, tu sais, en disant, ben il y a toutes sortes de choses, là. On parle beaucoup des casques, naturellement, parce que c'est hyper important. La plupart des gens ont survécu parce qu'ils portaient un casque lors de leur accident. Mais c'est de mesurer sa prise de risque, de comprendre ce que c'est, puis aussi de développer une certaine empathie envers les personnes qui vivent avec ces conditions-là et qui sont victimes la plupart du temps de préjugés de la part de la population parce qu'on ne connaît pas assez cette condition.
Tout à fait. Alors, quelles sortes d'activités vous allez faire?
Alors, partout à travers le Québec, on peut aller voir sur notre site Internet connexion-tccqc.ca. Il va y avoir la programmation. Cette année, on va faire la diffusion dans plusieurs régions du Québec d'un film qui s'appelle Impact, où on voit l'histoire de trois personnes qui ont eu des accidents et à travers le temps, comment est-ce qu'elles ont réussi à développer leur nouvelle vie et aussi c'est quoi l'impact des associations communautaires dans leur vie sur leur réintégration sociale.
Donc, pendant cette semaine-là, on va mettre au courant aussi les gens, on l'a dit tout à l'heure, des fameux préjugés qu'on peut avoir et, vis-à-vis des personnes qui ont, elles, des défis à relever. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens à ça? Dans le monde actuel, là, parce qu'on a un monde un peu difficile là, ces jours-ci. Là.
Oui, je pense que... Moi, j'ai assisté déjà à quelques projections là, du film qu'on a sorti. C'est sûr que les personnes qui ont vécu elles-mêmes ce film-là, qui ont vécu un accident, mais qui ont vu le film, après, ils disaient « Ah, j'aimerais ça le montrer à ma mère, j'aimerais ça le montrer à mon ami, j'aimerais ça qu'ils voient le film pour qu'ils comprennent. » Je pense que les personnes dans le film expriment aussi beaucoup leurs difficultés, dans le sens où, comme je vous disais, des préjugés, c'est pas parce que j'ai des problèmes d'élocution que je suis nécessairement en état d'ébriété. Des choses comme ça qui peuvent arriver où la personne, elle exprime vraiment comment elle se sent, puis comment elle se sent lorsqu'elle a des commentaires du reste de la population qui ne connaît pas le TCC. Alors, ça amène vraiment une réflexion à ce sujet-là.
Alors, comment on travaille? Il y a ce film qui est là, mais comment on fait pour, comment je pourrais dire, pour faire tomber ces préjugés, ces tabous? Dans la vie de tous les jours, là.
Oui, il y a différentes stratégies qui sont utilisées par le regroupement. Donc là, comme je vous disais, il y a le film durant la semaine québécoise. Mm-hmm. Il y a différentes associations qui vont aussi dans des zones à risque, que ce soit des terrains où les gens font de la planche à roulettes, du vélo, les endroits où il y a des prises de risque. Mm-hmm. Il y a également, le regroupement a fait une étude sur les conditions d'habitation des personnes vivant avec un TCC. Et donc, pour démontrer là, tout le soutien qui est nécessaire quand on sort de l'hôpital puis qu'on a à retrouver une vie normale, j'ai envie de dire, ben c'est possible pour ces personnes-là, mais ça prend vraiment un soutien adéquat pour pouvoir contrer là, ces limitations-là qu'on a suite à l'accident.
Qu'est-ce qui freine l'empathie ou le fait que les gens pourraient comprendre ce qui se passe?
Je pense qu'une des premières choses qui freine, c'est qu'on ne connaît pas ça. Donc, c'est vraiment le but de la sensibilisation, c'est d'expliquer cette personne-là, elle a ces comportements-là parce qu'elle a eu un accident. Quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense dans la société, c'est pas quelque chose qui est habituel, puis on va avoir tendance à réagir justement en disant, ben franchement, cette personne-là, elle est impolie, cette personne-là est mal éduquée, alors que c'est pas nécessairement ça. Fait que je pense que l'idée, c'est d'expliquer, c'est de mieux comprendre, c'est d'éduquer à ce niveau-là sur les causes qui font que cette personne-là, elle est comme elle est actuellement.
Comment les médias, les gens en général, comment on pourrait contribuer à changer justement cette situation-là?
Ben, en parlant, naturellement.
Ce qu'on fait aujourd'hui,
oui. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir invités pour parler de la Semaine québécoise du TCC. Et puis, justement, en expliquant pour que les gens connaissent mieux ce que c'est un traumatisme crânio-cérébral. Vous savez, moi, depuis que je travaille dans cet organisme-là, à chaque fois que je me retrouve dans un événement où il y a des gens de différents milieux puis que j'explique c'est quoi mon travail, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah oui, le beau-frère, la belle-sœur, l'ami, quelqu'un. » Oui, moi, je connais quelqu'un qui a eu un accident puis qui vit avec les séquelles d'un TCC. Donc, ça arrive vraiment plus souvent qu'on le pense, mais quand on se met à en parler autour de nous, là, on voit que, ah oui, ben je comprends mieux pourquoi cette personne-là, finalement, ben, elle est toujours en retard ou elle oublie des choses. J'avais pas pensé que ça pouvait être dû à son accident.
Oh, wow. J'ai dit en début d'émission, aujourd'hui, c'était la journée nationale ou internationale, pardon, de l'habitation. Et vous avez une activité cette année pour justement à ce niveau-là.
Oui, alors on était très contents de pouvoir faire l'entrevue aujourd'hui. Ça tombait bien. Donc, sur notre site Internet, on sort un rapport d'une recherche qu'on a fait, une recherche de 2 ans où il y a 175 personnes vivant avec un TCC d'un peu partout au Québec, dans 10 régions du Québec, qui ont été interrogées à savoir c'est quoi leurs conditions d'habitation. Est-ce qu'elles sont satisfaites ou pas satisfaites? Puis qu'est-ce qui fait qu'elles vivent bien? Bien. Donc, il y a plein, dans cette étude-là, naturellement, il y a plein de choses à améliorer, mais il y a plein de belles choses aussi de gens qui disent, ben moi, si j'arrive à bien vivre, c'est parce que j'ai le soutien, j'habite dans un logement social avec du soutien communautaire, j'ai cette salle commune-là où on fait des repas, ou en tout cas, bref, c'est tout explicité dans notre rapport. Puis pour nous, c'est vraiment important de démontrer que l'habitation, c'est quelque chose d'incontournable pour l'intégration sociale des personnes qui vivent avec un TCC. Il y a des études qui démontrent que les personnes en population d'itinérance, il y a jusqu'à 50 % de gens qui pourraient avoir eu un TCC. Mmh. Donc, c'est non négligeable là, comme sujet à aborder.
Wow, on en apprend des choses, hein? Ben, cette semaine-là, donc, rappelons tout ça, Marjane Tapin.
Tout à fait. 15 au 21 octobre, c'est la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. On peut voir la programmation dans 13 régions du Québec, partout. Et allez voir le film Impact. Il y a des projections gratuites, différentes projections gratuites dans les 10 prochains jours, dans différents endroits.
On trouve l'information où?
Sur le site Internet, connexion.tccqc.ca.
Excellent. Merci beaucoup, Marjane Tapin.
Merci à vous.
Quelque chose à faire de ta vie, c'est ce que maman me dit à tous les lundis. Pourtant, je travaille tout le temps, mais pas comme mes parents. J'espère le 9 à 5, je suis pour quelque chose de différent.
I'm not sorry, sorry for the things I did. If you don't love me, I don't give a shit. I'm not sorry, sorry, that's the way I am. And if you love me, put your drinks in the air.
Ils me disent, faut pas que tu foutes ta vie en l'air pour avoir quelque chose à faire. Des shows pour une caisse de bière, puis à soi, 35, t'auras pas de réel. Ils me disent, faut pas que tu foutes ta vie en l'air pour avoir quelque chose à raconter. Tu vas faire des shows pour une caisse de bière, puis à soi, 35, t'auras pas de réel. Même si tout tient avec la broche, qu'on a plus une scène dans nos poches. On est peut-être pas cowboy, mais on est fringant. Là où les filles nous aiment, les boys nous trouvent tannant.
Y'all won't pay me with a number 7. I'll stop being broke once I get to heaven. Thought I'd be dead by 27. Haven't felt so alive since I was 11.
Ils me disent, faut pas que tu foutes ta vie en l'air pour avoir quelque chose à raconter. Tu vas faire des shows pour une caisse de bière, pis à soi, 35, t'auras pas de réel. Ils me disent, faut pas que tu foutes ta vie en l'air pour avoir quelque chose à raconter. Tu vas faire des shows pour une caisse de bière, pis à soi, 35, t'auras pas de réel.
Maintenant je les allume.
J'aurais jamais pensé un jour faire la une. Ils diront que c'est de la chance, que rien de tout ça fait du sens. C'est pour les bonnes raisons qu'on chante, on se fout pas de ce qu'ils pensent.
C'était la chanson « Quelque chose à raconter ». C'était classe moyenne. Il y a du monde dans cette chanson-là.
Oui, beaucoup de monde. Alors, c'est temps de parler des para-actualités. Le devoir aujourd'hui, plus d'un Québécois sur cinq vit avec un handicap, mais l'accès aux loisirs reste un défi majeur. Afin de briser les obstacles, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées a lancé un documentaire. Le but est de sensibiliser les organisations sportives et culturelles à l'importance de l'inclusion. L'article souligne que les obstacles vont au-delà de la mobilité, citant l'accessibilité visuelle des sites web ou l'oubli fréquent d'entretenir les rampes. Le documentaire suit de bout en bout la comédienne Charlie Rousseau, elle-même en situation de handicap, que l'on voit s'adonner à plusieurs loisirs dans des entreprises québécoises, dont le gym, des musées ou le théâtre, en compagnie d'autres personnes ayant une incapacité. Charlie Rousseau rappelle que d'adapter les espaces ne coûte souvent pas cher, mais que la volonté et l'information doivent être là. Dans un communiqué, Santé Canada vient d'approuver Agamré au Vamorolone comme premier traitement approuvé au pays pour la dystrophie musculaire de Duchenne. C'est une maladie très rare et débilitante. Le médicament destiné aux garçons de 4 ans et plus représente un immense espoir. On dit pour les garçons parce que la dystrophie de Duchenne, qui affecte plus de 800 jeunes canadiens, et principalement, c'est des garçons qui ont cette maladie-là. Et ça provoque donc une faiblesse et une dégénérescence musculaire progressive. La Gamerie, concédée sous licence à Kai Pharmaceutical, offre une nouvelle option thérapeutique. Les données suggèrent qu'il pourrait avoir une efficacité comparable aux traitements stéroïdiens actuels, tout en offrant un profil d'effets secondaires potentiellement réduit, notamment pour la croissance et la santé osseuse. Des bonnes nouvelles maintenant, se trouver un logement adapté est un vrai parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap au Nouveau-Brunswick. À Edmundston, la ville reconnaît le problème et lance un sondage pour mieux cibler les besoins. Des résidentes comme Joanne Blanchette racontent les compromis quotidiens, devoir se mettre de côté pour aller dans la cuisine qui est un peu trop petite ou naviguer entre des meubles qui ne sont pas adaptés. De son côté, Thérèse Hébert, non-voyante, a dû bricoler son fourneau pour pouvoir le rendre utilisable. La Coalition des personnes handicapées salue cette initiative, se disant fière de voir une ville qui demande quels sont nos besoins à la place de nous les imposer. Ce sondage doit permettre à Edmundston de travailler avec plusieurs promoteurs immobiliers pour enfin créer des logements véritablement accessibles, rendant le quotidien des résidents plus facile et sécuritaire. Dans Info Dimanche maintenant, grâce à un don important, des usagers du CLSC de Rivière-du-Loup pourront utiliser un déambulateur spécialisé, le modèle U-Step. Cet appareil de pointe est conçu spécifiquement pour offrir une plus grande stabilité aux personnes souffrant de conditions neurologiques comme la maladie de Parkinson. Le déambulateur U-Step n'étant pas disponible en prêt standard, ce nouvel équipement donc sera bien crucial. Il sera mis à la disposition des résidents pour des périodes d'essai, leur permettant d'évaluer l'appareil dans leur quotidien avant d'envisager une acquisition. Cette étape essentielle pour aider les personnes à choisir l'équipement le mieux adapté à leurs besoins, favorisant donc leur autonomie et réduisant le risque de chute.
Aime-moi, rien que moi. D'un amour qui ne se partage pas. Dis-moi les mots que j'aurais besoin d'entendre pour que je garde mon sang-froid. Insécure comme il se doit, plus je me noie dans ma paranoïa. Tu peux me jurer qu'on est les seuls au monde. Je serai jaloux dès que tu pars. Je sais que tu n'es pas un ange, mais je ne veux rien entendre, sauf quand tu fais semblant. Dans la vérité dérange, je préfère tes mensonges, et quand tu fais semblant, que tu m'aimes encore.
Mais ça, redeviens celle que j'aimais déjà. Tu te mets belle que pour les yeux des autres. T'as rien mon don, mais je te vois. As-tu déjà tenté le diable? Pauvre Judas, tu en serais capable. Avec qui tu couches, dis-le-moi. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Je sais que tu n'es pas un ange, mais je ne veux rien entendre, sauf quand tu fais semblant. Dans la vérité dérange, je préfère tes mensonges, et quand tu fais semblant que tu m'aimes encore. La rumeur est franche, mais je refuse de croire ce que j'entends. Je sais que tu n'es pas un ange, mais je ne veux rien entendre, sauf quand tu fais semblant. Dans la
une nouveauté d'Alexandre Desilets, c'était la chanson « Fait semblant ».
Un texte d'opinion ce matin de Loïc Tassé dans le Journal de Montréal. Selon lui, le président états-unien Donald Trump apparaît plus dément que jamais alors qu'il se prépare à accueillir Mark Carney pour discuter d'échanges commerciaux. On le sait, Trump fait la guerre au Canada en lui imposant des tarifs douaniers sans précédent. Tassé dénonce l'agressivité et le caractère décousu des propos de Trump, citant notamment son discours devant les généraux où il aurait demandé d'utiliser des villes démocrates comme terrain d'entraînement pour l'armée. L'auteur souligne que le narcissisme du président a franchi un nouveau stade avec le projet de frapper une pièce de monnaie à son effigie, le poing levé, avec l'inscription « Fight, 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 combattez, combattez, combattez ». Le chroniqueur affirme que la Maison-Blanche est devenue un asile psychiatrique où même les chefs d'État, de peur de le contrarier, sont contraints de le couvrir d'éloges. Pour l'analyste, les négociations avec l'administration, une administration si dysfonctionnelle, relèvent davantage de la psychiatrie que de la politique. Une nouvelle offensive est lancée aujourd'hui, c'est un communiqué, par Cap Santé Mentale pour soutenir les travailleurs qui sont proches aidants en santé mentale. Ce rôle, souvent invisible, mène beaucoup d'employés à l'isolement et à la surcharge mentale. Le porte-parole Jean-Philippe Dion rappelle que ses proches sont eux-mêmes à risque d'épuisement. Pour les employeurs, c'est un investissement gagnant-gagnant. Le soutien mène à de meilleurs taux de productivité et de rétention du personnel. Une trousse d'aide est maintenant disponible pour les entreprises du Québec. Elle propose entre autres des mesures de souplesse comme des horaires flexibles et informe sur les ressources disponibles. L'appel est lancé aux employeurs, ouvrons le dialogue et reconnaissons le rôle essentiel des proches aidants. Le Comité paralympique canadien, par voie de communiqué, a dévoilé son nouveau plan stratégique de 10 ans axé sur l'impact du parasport. Cette nouvelle priorité vise à éliminer les obstacles qui limitent la participation aux activités sportives pour les 8 millions de Canadiens vivant avec un handicap. Le comité veut convertir le succès des athlètes paralympiques en un levier de changement social. La stratégie s'articule autour de deux piliers, maintenir des équipes nationales d'excellence et amplifier l'impact du parasport pour influencer l'accessibilité des infrastructures et changer les perceptions. L'objectif est d'assurer l'équité et d'accroître les bienfaits physiques et sociaux du sport pour un plus grand nombre, comme le souligne la chef du comité de parasport, qui s'appelle Karen O'Neill. Je tente de vous dire donc que c'est une journée qui va rester chaude aujourd'hui. C'est à nouveau l'été pour le sud du Québec, les provinces maritimes et aussi l'Ontario, surtout le sud de l'Ontario. Ailleurs, c'est plus frais avec des possibilités d'averses en Alberta. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je remplace Hélène qui va être de retour demain à l'antenne, mais comme d'habitude. Et je remercie donc Hélène qui a travaillé à la recherche et Mathieu Tessier et toute l'équipe de Canal M qui permet donc la diffusion d'une émission aussi intéressante. À la prochaine fois.